Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais essayer donc de vous montrer un petit peu ce que les physiciens et les biologistes ont collaboré pour travailler en fait à l'échelle d'une seule molécule. Donc, le principe en fait, c'est de dire que en biologie, il y a énormément de problèmes qui sont fondamentaux, évidemment très importants, mais jusqu'à présent, la plupart du temps, en fait, on a beaucoup regardé les problèmes biologiques au niveau chimique. C'est-à-dire que si on reprend, par exemple, ce qui avait été présenté pour la fameuse double hélice qui a un peu plus de 50 ans maintenant, Crick et Watson ont fait remarquer que le fait qu'on ait deux copies complémentaires sur donc, chacun des brins de la double hélice était très important parce que ça permettait, de, par exemple, de faire la réplication de l'ADN. Ils disaient donc qu'il suffit de séparer les deux brins pour répliquer cette molécule et recopier chacun de ces brins de chaque côté. Alors, en se disant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont implicites là-dedans, c'est-à-dire que pour faire cette opération, il faut des agents qu'on a d'abord identifiés comme des enzymes, c'est-à-dire pratiquement des agents chimiques, mais ce qui est absolument évident, en fait, c'est que ces agents chimiques sont aussi des agents physiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment des moteurs. Donc, si on regarde une molécule d'ADN telle que la présente Crick et Watson et qu'on se pose simplement le problème de séparer les deux brins, pour obtenir donc les deux les éléments qui vont être recopiés pour faire les deux nouveaux deux nouvelles molécules d'ADN, eh bien les liaisons qui lient ces deux brins sont dites des liaisons faibles. Donc on peut imaginer que c'est facile de les ouvrir, mais dans une molécule d'ADN, il y a énormément de bases en parallèle et donc ouvrir complètement les deux molécules représente une énergie extraordinaire. Et donc il n'y a aucune chance que cette ouverture se fasse spontanément à température ordinaire dans les cellules. Donc il faut évidemment une enzyme pour faire ça, c'est ce qu'on appelle l'hélicase, c'est ce qui va casser l'hélice. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que cette hélice, elle est en fait vraiment un moteur moléculaire et que ce moteur va se déplacer le long de l'ADN et va ouvrir ce qu'on appelle une fourche ici de réplication, va ouvrir l'ADN comme un bulldozer un petit peu travaillerait sur un chantier à notre échelle. Donc cet objet ici, ce que je veux essayer de vous faire remarquer, c'est que c'est vraiment un moteur, c'est vraiment un objet physique qui se translate, et dans la plupart des expériences qui ont été faites en biologie jusqu'à présent, eh bien on a beaucoup mis l'accent sur l'effet chimique qui était fait, c'est-à-dire le résultat final, la fabrication des deux molécules au final, mais c'est beaucoup plus difficile de mettre en avant l'accent sur l'aspect moteur. Alors ça, c'est un exemple sur l'ADN. Il existe évidemment d'autres moteurs dans nos cellules. Les principaux sont ceux qui font marcher nos muscles squelettiques, par exemple. Et évidemment, on a le même problème avec ces protéines. Ce sont des moteurs moléculaires. On peut les tester dans des tubes à essai, c'est possible, mais c'est très difficile de voir évidemment leur mouvement dans un tube à essai. Et donc, il est apparu l'idée de pouvoir suivre un seul moteur pour voir effectivement comment ce moteur marchait. Et c'est tout un tas de questions qui sont donc nouvelles et qui correspondent à l'idée de regarder ce qui se passe à l'échelle d'une molécule unique. Donc ce que je voudrais essayer de faire, c'est vous montrer un petit peu, rapidement, quelques exemples de ce qu'on peut faire actuellement, qui étaient jusqu'à il n'y a pas longtemps des expériences de pensée et qui progressivement sont en train de devenir des expériences de réalité. Alors avant ça, je vais essayer de revenir un tout petit peu sur, comme je suis un physicien, sur des notions de force et des notions un petit peu de départ au niveau d'une cellule. Et je viens donc de dire qu'il y avait des moteurs. Un moteur, ça déplace à une force. Et donc, je vais vous embêter un petit peu avec des forces, sinon je ne serais pas un vrai physicien. Et l'échelle qu'il va falloir retenir ici est toute bête. C'est que l'échelle qui va intervenir au niveau d'une seule molécule, eh bien, c'est ce qu'on appelle le pico-Newton. Alors, c'est simple. Si vous êtes capitaine ad hoc, eh bien, vous dites que 1000 milliards de pico-Newton, ça vaut un newton, c'est-à-dire le poids d'un verre de whisky. Donc vous avez l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 12 newton qui vous donne la force typique d'un moteur. Alors pour le moment, ça ne vous représente pas grand-chose. Je vais essayer de vous illustrer un petit peu mieux à quoi ça correspond par différentes ordres de grandeur. Alors si j'essaie de regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer, quelles sont la force la plus grande qu'il faut utiliser, par exemple, pour casser une liaison covalente. Donc si je me place du point de vue chimique, je regarde par exemple une liaison CC et je me dis si je vais la casser, je vais appliquer une force et séparer mes deux atomes. Eh bien, la force typique va être donnée par l'énergie de liaison divisée par la dimension de cette liaison. Donc c'est une énergie divisée par une longueur, ça donne une force. Si on fait ce rapport, on trouve une force qui vaut 1000 fois le piconewton. D'accord? C'est-à-dire que si je veux casser une molécule, une vraie molécule chimique, eh bien il faut que j'applique une force de l'ordre du nanonewton. J'ai dit tout à l'heure que dans l'ADN, on avait des liaisons faibles entre les bases, c'est-à-dire les liaisons hydrogènes qui relient le AT ou le GC. L'énergie, là, est beaucoup plus petite pour cette liaison faible. Elle est de l'ordre de ce qu'on appelle KT, c'est-à-dire l'énergie thermique. KBT, ce n'est autre que la constante RT des gaz divisée par le nombre de molécules. Et donc, cette énergie thermique, c'est donc l'énergie qui est toujours disponible dans un bain thermodynamique. Si je la divise aussi par une dimension qui est de l'ordre, cette fois-ci, plutôt du nanomètre, eh bien, j'obtiens une force qui est de 4 piconewtons. Donc, ce que ça me dit, c'est que si je veux casser, par exemple, les liaisons hydrogènes qui sont entre les bases de l'ADN, eh bien, il faudra que j'applique une force de quelques piconewtons pour séparer ces bases. Alors, dans nos cellules, il y a une source d'énergie commune qui est à peu près partout la même, qui est en fait l'ATP. Alors, l'ATP, c'est de l'adénine sous forme triphosphate, et qui peut devenir soit monophosphate, soit diphosphate, suivant les conditions. Ça libère une énergie qui varie entre 12 à 20 fois l'énergie thermique. Et si on regarde maintenant ce que fait un moteur moléculaire, eh bien le moteur moléculaire va transformer cette énergie donc, qu'il y a dans un phosphate en un déplacement. Et le déplacement, il va avoir lieu sur une échelle de quelques nanomètres. Donc si on regarde les forces qui sont mises en jeu par un seul moteur, eh bien on trouve encore une fois une force du piconewton. Et si maintenant j'essaie de comparer à quelque chose d'un peu bizarre, c'est-à-dire si j'essaie de regarder qu'est-ce que font les bactéries, eh bien sûrement qu'elles se préoccupent aussi de leur ligne. Et donc si je prends une bactérie E. coli et que j'essaie de la peser, eh bien ça va me donner une échelle d'un poids. Alors évidemment c'est une très mauvaise échelle parce que je vais sortir la bactérie de l'eau, donc c'est pas une situation très normale. Ça a été fait sur un petit cantilever d'AFM, et le poids à ce moment-là d'une bactérie, c'est un centième de piconewton. Alors ça nous donne des ordres de grandeur qui sont intéressants, parce que vous voyez que pour travailler à l'échelle d'une molécule, il me faut une force qui est du piconewton. Et si je veux, par exemple, soulever dans la gravité, ce qui n'est pas franchement intéressant, mais ce qui est quand même un ordre de grandeur de départ, soulever une bactérie qui est quelque chose de beaucoup plus gros, qui est de taille micronique, eh bien, vous voyez que j'ai besoin d'une force qui est toute petite. Ça nous dit simplement qu'en fait, un seul moteur, ou une seule de ces forces à l'échelle d'une seule molécule, est capable de faire quelque chose à l'échelle d'une bactérie. D'accord. Et ça, c'est en fait un ordre de grandeur qui est tout à fait intéressant et qui va être pratique pour nous. Et on est l'année de la physique, et donc Einstein est beaucoup à l'honneur. Et Einstein a regardé très attentivement le mouvement brownien. En fait, le mouvement brownien est dû à une petite force aléatoire. Et cette force aléatoire, qui est en fait le résultat de l'action de toutes les molécules d'eau sur un objet quelconque micronique, si je regarde un objet qui a une taille à nouveau de la bactérie, donc assez gros encore, eh bien la force aléatoire qui est faite par les molécules d'eau est tout à fait comparable à son poids. Donc on est dans un ordre de grandeur où le mouvement brownien est extrêmement fort. Vous voyez que le mouvement brownien est évidemment comparable à la force de gravité qu'aurait le poids de la bactérie dans ce système-là, ce qui nous dit donc que c'est la force dominante dans ce système. Donc on va retrouver ces différents ingrédients un peu partout. Et donc maintenant je vais essayer de revenir un petit peu aux motivations dont je vous ai parlé, et vous montrer quelques expériences qui permettent donc de regarder une seule molécule. Alors pour faire ces expériences, le gros problème qui se pose en général, c'est de pouvoir manipuler une seule molécule. Alors manipuler une seule molécule, en fait on peut les voir avec actuellement le microscope électronique ou avec éventuellement les rayons X dans certains cas. Mais dans ces cas-là, on est en général assez loin des conditions où les enzymes sont, disons, dans de bonnes conditions pour travailler. Et donc, on a beaucoup de mal à voir une molécule dans des conditions qui sont l'eau. Donc, si on utilise un microscope optique, le gros problème qu'on a, c'est que, malheureusement, la résolution du microscope optique ne permet pas de voir cette molécule. Donc, il va falloir faire quelque chose pour visualiser cette molécule, et ce quelque chose en général, c'est lui accrocher un marqueur qui va être beaucoup plus gros que la molécule qu'on étudie, typiquement une petite bille ou au contraire un marqueur fluorescent. Alors je vais vous montrer un premier exemple qui a été fait par un groupe aux États-Unis, le groupe de Paul Selvin, et qui s'est donc intéressé à une question très simple, c'est la façon dont marche un moteur moléculaire. Alors, le moteur moléculaire dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle la myosine 5. La myosine 5 est un moteur moléculaire un tout petit peu particulier qui transporte ici... Donc, c'est une molécule qui ressemble, grosso modo, à un petit bonhomme, si j'exagère un petit peu le principe, qui a deux jambes et une tête, et qui, par cette tête, ou deux têtes, qui, par cette tête, accroche une vésicule dans laquelle il va transporter certains éléments d'un bout à l'autre de la cellule. Et ce transport est fait le long d'un filament d'actine. On a déjà parlé hier de l'actine. L'actine polymérise pour former des filaments qui sont aussi en double hélice. Et ce filament est orienté. Donc on a une direction privilégiée dans le fil rouge qui n'apparaît pas dans mon dessin ici. Et ce moteur ici donc, va être en charge d'apporter certains constituants cellulaires d'un bout à l'autre de ces filaments. Et donc il va reconnaître la direction du filament d'actine et va se déplacer le long de ce filament. Alors, ce moteur ressemble un peu à d'autres moteurs qu'on a aussi dans les cellules nerveuses, qui sont les kinésines, et qui travaillent, eux, sur un autre rail, qui sont la tubuline. Alors, ce moteur, donc, travaille sur ce filament, et évidemment, on a pu montrer l'activité de ce moteur, mais ce qui est très difficile, c'est de savoir comment il marche exactement. Et une question très simple qui se posait, c'était de savoir comment ce moteur mettait-il un pied devant l'autre. Donc la question qui était posée, c'était est-ce que ce moteur marche comme vous et moi, c'est-à-dire en mettant vraiment un pied devant l'autre, ou au contraire, est-ce qu'il se marche d'une façon... Dans la mesure où il a deux molécules symétriques, j'ai oublié de dire ça, il est composé de deux molécules complètement symétriques, les gens se posaient la question de savoir s'il ne marchait pas comme un inchworm, c'est-à-dire comme un ver de terre, un ver sur une plante, et donc qu'il y avait toujours un pied qui était devant l'autre, et qu'il n'y avait jamais d'alternance. Donc c'était une question très simple, quelle est la façon dont se déplace ce moteur. Alors, ce moteur a une petite particularité, c'est qu'il a un pas enzymatique assez grand, mais vous voyez quand même que toutes les dimensions qui sont marquées ici sont des dimensions nanométriques. Donc, si je prends ce moteur et le filament d'actine et que je mets sur le microscope, eh bien, malheureusement, je ne vois rien, parce que tout est plus petit que la résolution du microscope. Alors, je peux éventuellement voir le filament d'actine qui fait un petit trait sur mon microscope, mais il n'est pas question de voir ce moteur. Alors, ce qu'ont imaginé l'équipe de Paul Selvin, c'est tout simplement de faire ce que Joseph Zis a discuté hier, c'est-à-dire de rajouter une molécule fluorescente sur cette enzyme, et donc de mettre un marqueur qui est une petite molécule fluorescente ici, qui va se fixer sur une des jambes de cette enzyme. Et il va se fixer de façon aléatoire. La jambe, si je puis dire, est formée de 5 globules identiques, et sur chacun de ces globules, il y a une possibilité d'accrocher une molécule fluorescente. Donc c'est fait chimiquement, mais on ne peut pas maîtriser la position sur laquelle se fixe ce marqueur. Donc le marqueur va se mettre quelque part sur la jambe, et il peut être soit très près du pied, soit au contraire très près de la jonction de ces deux unités. Et ça va se faire au hasard. Donc si j'ai un marqueur fluorescent, j'ai reporté le problème ailleurs, c'est-à-dire que j'ai de la fluorescence dans mon système, et mon microscope va éventuellement voir la fluorescence, mais j'aurai toujours le même problème, c'est-à-dire que une molécule fluorescente, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à voir, mais je peux le voir, mais j'aurai toujours la limitation du microscope. Alors comment puis-je faire quelque chose avec un tel système qui va me permettre éventuellement de répondre à cette question? Alors là, il faut faire un tout petit peu de technique, et donc dans toutes les expériences de molécules uniques, il y a un petit peu de technique, et la technique ici est toute bête, c'est de dire si j'ai une seule molécule fluorescente, eh bien, en fait, on a actuellement des caméras qui sont suffisamment sensibles pour détecter une seule molécule fluorescente dans notre système. Si, par exemple, je disperse quelques molécules fluorescentes dans un petit gel sur mon microscope, eh bien, je vais obtenir, et je mesure l'intensité de la fluorescence en fonction de la position de mon microscope, eh bien, je vais obtenir la plupart du temps rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de molécules fluorescentes là où je regarde, et de temps en temps, j'ai un pic correspondant à probablement une molécule fluorescente dans mon système. Alors, qu'est-ce que je vois exactement? Je vois ici un pic qui est assez large, qui est mis malheureusement ici en pixels. Il faut savoir qu'en général, un pixel sur une caméra de microscope, ça vaut 0,1 micron. Donc, vous voyez que ça fait un pic qui a une dimension qui est comparable à une fraction de micron. Et c'est exactement ce qu'on attend pour un microscope optique, c'est-à-dire qu'on voit ici une fonction très pointue, mais qui a exactement la résolution du microscope optique. Donc, je n'ai pas de miracle, je ne vois pas la molécule avec la précision du nanomètre ou de l'angström, mais je vois quelque chose qui a exactement la précision de mon microscope. Seulement, il y a une chose qui est intéressante, c'est que ce pic ici est extrêmement bien défini, Et donc, si je récupère... Alors évidemment, ce que vous avez ici, c'est le nombre de photons qui ont été récupérés par une seule molécule. Donc, c'est des expériences où, en fait, on compte les photons qui proviennent d'une molécule. Ça vous donne un petit peu le niveau de difficulté. Et vous voyez que si vous tracez cette fonction, elle est très, très bien définie. Et en fait, son centre de gravité est bien mieux défini que la largeur de mon pic ici. Donc, j'ai ici, en fait, quelque chose qui est défini avec une précision qui va être... bien meilleure que la résolution de mon microscope. Donc, je suis capable de voir que j'ai éventuellement une molécule unique et je suis capable d'en préciser la position à condition que j'attende suffisamment longtemps pour avoir un pic comme celui-ci bien défini. Ça ne viole pas les principes de l'optique, ça me dit simplement que je suis capable de centrer, si vous voulez, ma fonction de réponse avec une très bonne précision. Alors, il faut quand même que je puisse être certain de dire qu'il n'y a qu'une seule molécule. Et pour ça, c'est assez facile. Il suffit de regarder l'intensité de ma molécule fluorescente. Et qu'est-ce qui se passe quand j'éclaire une molécule fluorescente? À un moment donné, elle disparaît. Et si, brutalement, le niveau de lumière passe d'un niveau constant à un niveau zéro, ça veut dire que j'avais bien qu'une seule molécule. Si, au contraire, je passe d'un niveau 2 à un niveau 1, puis un niveau 0, et bien, ça veut dire que j'avais deux molécules que j'étais en train de regarder. Alors, l'argument que je viens de développer ici ne marche que si j'ai qu'une seule molécule. Si je sais que j'ai qu'une seule molécule, à ce moment-là, je peux déterminer sa position avec une excellente précision. Alors, c'est ce qu'ont fait ici ces auteurs, c'est-à-dire qu'ils ont gardé la position de ce pic et puis ils se sont amusés à décaler l'échantillon de quelques nanomètres. Et on peut suivre, en fait, la position de ce pic avec une précision typiquement d'un nanomètre dans ce système-là. D'accord. Alors, évidemment, il y a un prix à payer, il faut avoir une bonne statistique, et donc ils ne peuvent suivre ce système qu'avec un temps de réponse qui est une fraction de seconde. Donc, le temps de réponse n'est pas extrêmement bon, mais par contre, la précision est excellente. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire sur le moteur dont je viens de vous parler? Eh bien, le principe de l'expérience est tout bête. Vous prenez des moteurs, vous les marquez de façon aléatoire, et puis vous regardez si vous êtes capable de suivre le déplacement de la molécule fluorescente au cours du temps. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le marqueur pouvait se positionner n'importe où sur la molécule. Eh bien, il y a deux cas qui vont nous intéresser. Soit le marqueur est très près du pied, si je puis dire, de mon marcheur. Et s'il est très près du pied de mon marcheur, eh bien, il va se passer qu'en fait, si ma molécule fait des pas en mettant un pied devant l'autre, comme nous, à ce moment-là, la taille du pas que je vais observer devrait être deux fois plus grande que la taille du pas que j'ai si je regarde la tête de ma molécule. Puisque à ce moment-là, le pied fait un facteur 2. Si au contraire, ma molécule fluorescente est très près du corps, si je puis dire, de mon marcheur, eh bien cette fois-ci, je vais trouver les pas élémentaires de cette enzyme qui, eux, devraient être deux fois plus petits. Alors, ça, c'était le principe. Donc ici, on a le cas où on marche en mettant un pied dans l'autre. Si cette fois-ci, au contraire, je marche en poussant un pied, si je puis dire, en inchworm, eh bien, j'ai des pas qui sont deux fois plus petits lorsque ma molécule fluorescente est près du pied. Donc ça, c'est le principe de l'expérience. Quel est le résultat? Alors voilà, par exemple, le suivi d'une enzyme au cours du temps. Et donc, vous voyez ici que les pas font 74 nanomètres de dimension typique. Et donc, vous voyez en fait que cet enregistrement démontre parfaitement que l'enzyme met un pied devant l'autre, comme nous faisons, en fait, quand nous marchons. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce résultat, donc, a infirmé tous les résultats précédents qui proposaient que l'enzyme marche en inchworm. Chacun avait eu de très bonnes idées pour proposer que l'enzyme ne pouvait marcher qu'en inchworm. Et Paul Selvin a pu démontrer que ce n'était pas du tout le cas. Et donc, qu'effectivement, elle faisait un pas dans l'autre. Alors, vous voyez qu'ici, on a une réponse qui est sans ambiguïté. Lorsque le marqueur fluorescent est très près du pied, on a des pas d'à peu près 70 nanomètres. Si, par contre, le marqueur fluorescent est entre les deux, c'est-à-dire au milieu du genou, eh bien, on va avoir un grand pas suivi d'un petit pas. Un grand pas suivi d'un petit pas. Et donc, c'est bien ce que les auteurs ont observé. Ils ont vraiment pu suivre toute la dynamique de ce système et donc enregistrer la marche de cette enzyme. Alors, cette expérience peut paraître très simple. Ce qui est un peu délicat, c'est de pouvoir suivre donc une seule molécule fluorescente pendant, comme vous voyez, 2 minutes ici, dans cette expérience, et avoir la précision de cette mesure. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'avec des expériences très simples ici, on pouvait donc suivre l'évolution d'un moteur et voir comment ce système marche. Alors, je vais essayer de vous montrer un deuxième problème qui est directement lié au travail qu'on fait donc à l'école normale. Un vieux problème de la réplication qui a beaucoup gêné en fait la double hélice après sa découverte a été le problème qui était posé par les bactéries. Dans les bactéries, le génome de l'ADN est sous forme de ce qu'on appelle un plasmide, c'est-à-dire il est sous forme d'une boucle. L'ADN évite d'avoir des bouts. Chez nous, eucaryotes, l'ADN se termine par des télomères, et ces télomères sont mal recopiés par les polymérases. Dans les bactéries, le problème est évité en ayant replié les deux bouts l'un sur l'autre et en ayant fait une boucle. Très vite, ce problème a posé un problème topologique, conceptuel. Si l'ADN est en double hélice, eh bien, vous voyez que lorsque je veux répliquer cet ADN, comme le proposait Crick et Watson, il suffisait de séparer les deux bras. Si je fais ça, je désenroule les deux molécules localement. Et si je désenroule les deux molécules ici, il faut forcément que je fasse quelque chose pour compenser les tours que j'ai enlevés. Parce que le nombre d'enlacements de mes deux molécules ici est en fait un invariant. D'accord ? Donc je ne peux pas changer ce nombre d'enlacements sans faire quelque chose de fort. Alors, la réponse qui se passe naturellement, si vous prenez des bouts de ficelle et que vous faites cette expérience, eh bien, vous obtenez des Scooby-Doo ou des plectodèmes, suivant la façon dont vous voulez les appeler. Et ces Scooby-Doo font très très vite quelque chose d'inextricable. Alors, les Scooby-Doo, au début, vont se former sur la molécule mère, c'est-à-dire la molécule qui ici est en rouge. Et donc, bon, ça, c'est embêtant, mais on peut dire que c'est pas très grave. Mais en fait, la solution est encore pire parce que si j'imagine que je commence à répliquer ma molécule, c'est-à-dire que je fabrique les brins bleus qui sont ici, le dessin que je viens de faire ici est idéaliste parce que j'ai mis ici toute la torsion dans la molécule mère et je n'ai mis aucune torsion dans la molécule fille. Or, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'une partie de la torsion va se transférer par un emmêlage, si je puis dire, des deux molécules filles qui sont en train de se répliquer. Vous arrivez très vite à une situation ici qui est inextricable. Et donc, à la fin, le gros problème que vous avez, c'est que les deux molécules que vous avez répliquées sont emmêlées avec exactement le même nombre de tours qu'il y avait au départ. Donc, cette situation, évidemment, n'est pas tenable et beaucoup de gens ont dit que ça ne pouvait pas se faire comme ça dans les cellules. Il y a même eu certains modèles qui ont été proposés pour dire que l'ADN n'était pas une double hélice droite, mais que c'était une double hélice gauche et droite. Enfin, il y a eu dans la littérature un certain nombre de choses assez surprenantes, jusqu'à ce que James Wang prouve qu'en fait, il y ait une enzyme, comme toujours, qui tienne compte de ce problème et qu'il le résolve. Et cette enzyme, ce sont ce qu'on appelle ici les topoisomérases. Donc je vais essayer de parler de ces différentes enzymes dans l'ADN et vous montrer comment, en fait, on peut, à partir de nos expériences, à partir d'expériences sur l'ADN, regarder les moteurs marcher. Donc, ça, c'est donc la motivation. La motivation, c'est d'essayer de comprendre comment marchent ces moteurs. Et donc, je vais essayer maintenant de vous montrer le principe que nous avons développé pour faire ce système. Pour faire l'expérience, pour regarder comment se passe comment travailler sur une seule molécule, eh bien, nous avons développé un principe très simple ici, qui consiste à utiliser simplement des petits aimants et une bille magnétique. Alors, c'est ce qu'on appelle les pinces magnétiques. Il y a un deuxième principe qui est souvent utilisé, qui sont les pinces optiques. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer comment marche le système des pinces optiques. Donc, pour les pinces magnétiques, le principe est tout bête. Une molécule d'ADN a un gros avantage de pouvoir être, disons, modifié. Et donc, ce qui est possible de faire, c'est qu'on peut accrocher sur l'extrémité d'une molécule d'ADN des groupes particuliers, comme la biotine. Et la biotine a une très grande affinité pour une autre enzyme qui s'appelle la streptavidine, qui reconnaît la biotine avec une très très bonne sélectivité. Et donc, dès qu'on met une molécule de biotine, elle va se coller sur la molécule de streptavidine et faire pratiquement une liaison covalente. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des molécules d'ADN, on les a modifiées pour mettre de la biotine à une extrémité. Si vous prenez ces molécules et que vous les mettez en présence donc, de billes recouvertes de streptavidine, eh bien, le système va s'auto-accrocher et donc la bille magnétique va s'accrocher à l'extrémité de la molécule où il y a la biotine. Alors, la molécule d'ADN, on peut aussi lui mettre à la deuxième extrémité un deuxième système clé-serrure qui va être de la dioxygénine et de l'antidioxygénine. Et donc, on peut de cette façon-là accrocher une seule molécule d'ADN à une bille d'un côté et à une surface de verre de l'autre côté. Ça se fait spontanément. Il suffit de mélanger des billes avec des molécules convenablement préparées et d'avoir évidemment mis l'enzyme qu'il faut sur la surface de verre. Donc, vous auto-fabriquez ce petit système, mais quand vous le fabriquez, évidemment, rien ne vous garantit qu'il y a une bille accrochée à une molécule. Les molécules s'accrochent au hasard dans le système. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend ici un petit capillaire de verre dans lequel on fait l'opération, et on va jouer simplement sur les statistiques pour travailler à une seule molécule. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup de billes et peu de molécules. Si vous mettez beaucoup de billes et peu de molécules, eh bien, la plupart des billes ne seront pas attachées. Quelques billes seront attachées par une molécule et beaucoup moins de billes seront attachées par deux molécules. Donc, si vous rincez après votre capillaire, tout doucement, vous faites passer un écoulement dans le capillaire, ce qui va se passer, c'est que les billes vont être évacuées, celles qui ne sont pas attachées vont être évacuées, et donc vous allez retrouver dans votre tube uniquement les billes qui sont accrochées par une, deux ou trois molécules. Alors, évidemment, si on prend un tout petit nombre de molécules d'ADN par rapport au nombre de billes, eh bien, on a beaucoup plus de systèmes où il n'y a qu'une seule bille que de systèmes où il y a deux billes. Mais je vais vous montrer qu'on peut en fait trouver des astuces pour garantir qu'il n'y a bien qu'une seule molécule dans ce système-là. Alors, la deuxième chose qu'il me faut maintenant, justement, c'est prouver que j'ai qu'une seule molécule qui relie ma bille à mon système, puisque dans mon système, la seule chose que je vais voir, c'est ma bille. Donc, j'ai une bille d'ADN que je peux voir, et c'est le seul élément qui va être visible dans mon système. Donc, je ne suis pas capable de voir directement si j'ai deux billes. Alors, il me faut maintenant une technique qui me permet de mesurer, en fait, la force sur ma bille. Et si la façon dont je vais vérifier qu'il y a une molécule ou deux molécules, c'est que je vais tirer sur ma molécule et je vais voir si c'est facile ou difficile de faire cette opération. Pour ça, il faut une méthode qui me permet de dire si je tire fort ou pas fort. Alors, les aimants sont très pratiques parce que les aimants appliquent une force sur la bille. Mais la force magnétique, comme vous le savez, quand vous prenez deux aimants, est une force qui varie beaucoup avec la distance, qui n'est donc pas une force très facile à calibrer. Donc pour la calibrer, ce qu'on utilise, c'est tout simplement le mouvement brownien dont je vous ai présenté l'existence tout à l'heure. Si j'ai mon aimant et ma bille, eh bien, il se passe exactement ce que vous avez ici, c'est-à-dire que les deux aimants appliquent une force verticale sur mon système, ma bille est tirée vers le haut, et le mouvement brownien écarte la bille de sa position d'équilibre. Et ce que vous imaginez bien, c'est que la petite force aléatoire, donc ce qu'on appelle la force de Langevin, qui est responsable du mouvement brownien, ben, va déplacer au hasard mon petit pendule. Si je tire doucement, eh bien, ma bille va pouvoir évoluer de façon assez importante. Si maintenant je tire plus fort, c'est-à-dire si par exemple j'approche les aimants de mon système un petit peu, eh bien, il va se passer deux choses. D'une part, je vais tirer ma molécule d'ADN parce que j'ai mis une force plus importante sur mon système. Et puis d'autre part, vous voyez que la force de Langevin est toujours là, mais comparativement à la force de mes aimants, elle est plus petite. Et donc, ma bille bouge moins. Donc ce qu'on peut faire très facilement, c'est suivre le mouvement de cette bille et regarder ce qu'on appelle les fluctuations quadratiques moyennes de cette bille. Et les fluctuations quadratiques moyennes, le delta x carré ici, est directement relié à l'énergie thermodynamique ici, et puis, il y a ce qu'on appelle la raideur du système. Ça, en fait, c'est ce qu'a démontré Einstein, donc il y a un peu plus de 100 ans maintenant. Et donc, ici, ce qu'on trouve, c'est qu'on trouve que les fluctuations sont reliées à la force par le principe que je vous ai montré. Donc, en inversant cette formule, on peut mesurer la force dans notre système. Alors, si on fait ça, on obtient une courbe, ici, qui nous permet de mesurer donc cette force qui est appliquée à la molécule. Vous avez dit tout à l'heure que cette force était de l'ordre de quelques piconewtons, c'est exactement ce qu'on trouve ici. Et vous voyez ici, c'est une molécule d'ADN du phage lambda qui fait 16 microns. Et donc, si je tire tout doucement, bien, la molécule est plutôt en boule. Si je tire très fort, la molécule est complètement étirée. Et donc, je peux vérifier cette courbe de force. Et évidemment, si j'ai deux molécules qui relient ma bille à ma surface, eh bien, toutes les forces sont multipliées par deux. Et donc, par cette technique-là, je peux savoir si j'ai une ou deux molécules accrochées à mon système. Donc, je calibre mon système pour vérifier que j'ai une molécule ou deux. Et je suis capable de vérifier les forces. Alors, pour faire cette opération, il faut quand même faire une mesure. C'est-à-dire qu'il faut suivre la position en X. Et il faut aussi, ce qui est un peu plus délicat, avoir l'extension de la molécule pour retrouver les choses dans mon système. Et donc, je vais juste vous décrire en 2 minutes comment, en fait, vous montrer par un petit film, comment on peut suivre ces déplacements et enregistrer ces déplacements. Et comme dans l'exemple que vous avez vu sur la myosine, il faut faire ça avec une bonne précision, avec une précision de quelques nanomètres pour réussir à obtenir des informations intéressantes. Donc, pour suivre, eh bien, la première chose, c'est que voir le mouvement brownien, c'est facile, il suffit de regarder comment la bille, ce que vous avez ici, c'est une image de la bille à un instant donné qui est immobile ici. Donc si je veux suivre le mouvement brownien, il faut juste que je suive comment cette bille se déplace, et ça c'est quelque chose qu'on sait assez bien faire. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est de mesurer ce qui se passe dans la direction Z, comme je vous l'ai montré sur le microscope. Et il se trouve que la direction Z, c'est lorsqu'on fait varier la mise au point du microscope. Et vous savez tous que bon, bah, c'est beaucoup moins facile à mesurer. Alors en fait, on s'est aperçu que si on envoyait un éclairage parallèle sur notre système, eh bien, l'image de notre bille était décorée par des anneaux de diffraction. Et ce que j'ai ici, c'est ces anneaux de diffraction en fonction de la position de la mise au point dans mon microscope. Et vous voyez que les anneaux qui étaient très serrés au départ sont devenus beaucoup plus larges quand je me défocalise. Quand je défocalise mon microscope, j'ai fait ici des bonds de 1 micron. Et donc à partir de là, ben, vous avez ici le profil radial de ma bille, et vous voyez que les anneaux sont serrés en bas et larges lorsque je suis loin de la position de ma mise au point. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en regardant un seul profil ici et en le comparant à cette image-là, on peut retrouver la hauteur de la bille, et on va être capable de retrouver cette hauteur avec une précision de quelques nanomètres. Donc ça, c'est la technique qui va nous permettre de mesurer notre système et donc de garantir qu'on est en train de travailler, d'avoir une mesure précise sur nos systèmes. Alors, par exemple, j'ai ici une dernière illustration qui vous permet de montrer exactement comment on fait une courbe de force. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au début, on peut tirer très fort, il y a très peu de fluctuations. Donc vous avez ici les positions X, Y et Z. Et puis ici, j'ai bougé les aimants en cours de route. Et lorsque je bouge les aimants, eh bien, j'écarte les aimants de mon système. La molécule d'ADN se raccourcit. Les fluctuations augmentent et la distance, la longueur de la molécule a changé. Donc ici, ce que je veux vous illustrer, c'est que simplement en regardant cet énorme marqueur, qui est cette bille qui fait 1 micron à peu près dans mon système, eh bien, je peux en fait déterminer la longueur de ma molécule d'ADN avec une précision tout à fait remarquable de quelques nanomètres dans ça. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre de faire ici dans mon système et comment je vais pouvoir étudier à partir donc de longueur une enzyme qui est en train de travailler. Alors ça, un des avantages des aimants, c'est que non seulement on peut faire des choses au niveau, donc on peut exercer des forces, mais on peut aussi faire du surenroulement. Donc je vous ai montré tout à l'heure que l'ADN était dans nos cellules, pouvait avoir ce qu'on appelle un degré de surenroulement, c'est-à-dire que si on répliquait la molécule d'ADN, on induisait des Scooby-Doo sur la molécule d'ADN. Et ici, ce que je vous montre simplement, c'est une expérience très simple où nous appliquons une force constante à une molécule d'ADN et où nous faisons tourner les aimants sur eux-mêmes. Si je fais tourner les aimants, j'applique une force constante, mais par contre, je peux entortiller la molécule d'ADN. Alors pour entortiller la molécule d'ADN, il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord que ma molécule soit attachée correctement aux deux extrémités. En fait, il faut être attaché par plusieurs points. Et il faut surtout qu'il n'y ait pas de cassure, pas de nick, comme on dit, sur la molécule d'ADN, et donc que les deux brins d'ADN soient intacts. Mais si ces conditions sont réunies, eh bien, on a une courbe très caractéristique qui se produit, c'est-à-dire que lorsque je tords une molécule d'ADN, eh bien, il se passe exactement la même chose que quand je fais ça sur un tuyau d'arrosage ou sur mon fil de microphone, c'est-à-dire qu'il se passe des tortillons, et ces tortillons vont raccourcir le fil. Et vous avez souvent eu cette expérience malheureuse sur vos cordons téléphoniques. Donc, plus je fais de tours, plus ça raccourcit. Et donc, vous voyez que la molécule est d'ailleurs un comportement très simple. Elle se raccourcit chaque fois que je fais des tours. Et elle est extrêmement sensible à ce paramètre. Donc, ça va nous permettre, en fait, de changer le niveau de torsion de la molécule et éventuellement de regarder quel est l'effet de torsion sur ce système. Alors, je vais terminer sur les techniques par une dernière petite chose qui est toute bête, c'est que dans certains cas, comme je vous l'ai dit, la bille est accrochée par 2 molécules. Alors je vous ai dit qu'on pouvait vérifier qu'il y avait 2 molécules en faisant la courbe de force. En fait, il y a une façon plus simple de vérifier qu'il y a 2 molécules. c'est que très souvent, quand les deux molécules sont accrochées à la bille, elles ne sont pas accrochées au même point sur la bille. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle l'effet balançoire. C'est-à-dire que si ma bille est exactement comme ceci, c'est-à-dire si les deux molécules sont bien parallèles, eh bien, j'ai une extension maximum de mon système. Et puis, si je fais un demi-tour à droite ou à gauche, eh bien, je vais croiser les deux montants de ma balançoire. Et donc, je vais me retrouver avec une condition où j'ai une espèce d'X, soit avec les deux molécules dans un sens, soit les deux molécules dans l'autre. Et un petit calcul géométrique vous montre qu'évidemment, la molécule est plus grande quand elle est ici que quand elle est là. Donc, on a une signature très simple quand on a deux molécules qui relient une bille. C'est que si on fait un demi-tour à droite ou un demi-tour à gauche, brutalement, la molécule se raccourcit et correspond juste au premier croisement entre les deux molécules. Donc on a ici, si vous voulez, une technique très simple qui, juste en tournant deux aimants, nous permet de croiser deux molécules à volonté et de vérifier qu'on a bien un croisement. On peut évidemment entortiller, faire plus de tours dans ce système-là. Alors, à quoi tout ça peut nous servir? Je vais juste essayer d'illustrer deux, trois exemples très simples comment on peut se servir de ces techniques pour regarder donc l'action d'une enzyme. Je vous ai expliqué tout à l'heure donc l'hélicase séparait les deux brins de l'ADN. L'hélicase sépare les deux brins et elle conduit donc à deux molécules simples brins. Alors, ce que j'essaie d'illustrer ici, c'est l'action d'une hélicase un petit peu particulière. C'est une hélicase de réparation dans E. coli. Alors, E. coli est comme nous. E. coli, lorsqu'elle prend un coup de soleil, son ADN est abîmé. Et donc, il y a une batterie d'enzymes qui répare son ADN. Et entre autres, il y a toute une série qui s'appelle UV, UV, R, A, B, C, D, et UVRD est l'enzyme qui est en charge d'enlever le morceau d'ADN endommagé pour pouvoir le faire réparer par une polymérase. Alors la façon dont elle travaille, c'est que ces premières acolytes commencent par fabriquer un nick dans la molécule, une petite cassure, et puis UVRD trouve cette cassure et dézippe les bases pour fabriquer, donc pour enlever le brin défectueux, et une autre enzyme va venir couper le brin défectueux pour finalement le réparer. Alors moi, ce que je vous présente ici, c'est une expérience très simplifiée par rapport à ce qui se passe dans la cellule. On a pris une molécule ici d'ADN, et cette molécule a déjà un nick. Alors en fait, ça se fait tout seul, parce que nous sommes des physiciens et que nous manipulons mal l'ADN, donc comme nous manipulons mal l'ADN, la plupart de nos molécules sont niquées. Et quelques-unes ne le sont pas. Donc c'est très facile de trouver une molécule qui est niquée, parce que si vous tournez les aimants, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle est insensible à la rotation. Le nick permet d'enlever toute la torsion. Donc si vous tournez une bille et qu'il ne se passe rien, c'est que vous n'avez qu'une seule molécule et qu'elle est niquée. Donc on a un diagnostic très simple dans notre expérience pour savoir si on a bien le bon substrat. Alors, à ce moment-là, si vous mettez l'enzyme UVRT, cette enzyme est capable de trouver ce nick et elle va éventuellement dégrafer l'ADN. Alors si elle dégrafe l'ADN, on va passer d'une molécule d'ADN double brin à une molécule d'ADN simple brin, et il se trouve que l'extension d'une molécule d'ADN double brin et simple brin sont différentes en fonction de la force. Donc si je tire assez fort, l'ADN simple brin, comme c'est marqué sur le dessin, est plus grand que l'ADN double brin. Donc si l'enzyme est en train de travailler, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va allonger l'extension totale de ma molécule, et donc je vais voir ma bille monter au cours de l'action enzymatique. Donc, qu'est-ce que je vois expérimentalement? Ben, c'est à peu près ça qu'on voit. Donc, j'ai juste une petite illustration d'une expérience typique. Donc, ici, on applique une force constante assez forte à notre molécule. Il ne se passe rien la plupart du temps. Donc, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle du mouvement brownien. Et puis, vous avez une modélisation de l'enzyme. À un moment donné, l'enzyme va trouver le point de départ. Elle trouve le nick et elle dézippe l'ADN. Et vous voyez l'extension de la molécule qui augmente, et puis au bout d'un certain temps, cette enzyme va tomber spontanément, parce qu'elle n'a pas trouvé son collègue qui pouvait faire le reste du travail, et puis donc, comme elle est tombée, eh bien, les deux brins de la molécule se réhybrident quasiment instantanément, et donc vous reformez très rapidement la double hélice intacte. Et si vous avez une double hélice quasiment intacte, il y a toujours la cassure ici, il y a toujours un point d'entrée possible, et donc vous allez voir d'autres événements comme celui-ci, qui vont se succéder chaque fois qu'une enzyme va être capable de rentrer dans la cassure qu'on a fait ici. Donc, qu'est-ce que ça vous permet de montrer? Ben, ça vous montre ici qu'on a bien d'abord, la plupart du temps, pas d'activité, et de temps en temps une activité. Ça me permet de dire qu'il y a une enzyme qui agit à la fois, parce que la probabilité que deux enzymes agissent en même temps est très faible. Et d'autre part, parce que la plupart du temps, il n'y a qu'un seul nick dans la molécule que je suis en train de discuter. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est que l'action de l'enzyme, ici, est bien caractérisée. Vous avez ici une montée à peu près à vitesse constante. C'est la même vitesse que j'ai là et là. C'est la même vitesse que j'ai ici aussi. Donc, c'est bien un moteur qui est en train de travailler. Et ici, j'ai mis donc la longueur de la molécule. Vous voyez qu'on mesure ici une fraction de micron. Et j'ai transposé ici le nombre de bases qui sont dégrafées simplement par un exercice géométrique entre les longueurs des deux systèmes. Et donc, vous voyez que cette enzyme dégrafe 500 bases, quelques centaines de bases facilement à chaque fois, et elle le fait à une vitesse à peu près constante. Alors, par contre, ce qui peut vous paraître surprenant, c'est qu'elle ne le fait pas avec la même longueur à chaque fois, mais ça, c'est un peu normal, parce qu'elle a une vitesse moyenne constante, mais elle a une probabilité assez faible de tomber de son substrat, et de temps en temps, en fait, elle va tomber de son substrat et disparaître et repartir dans le bas. Et dès qu'elle est tombée, eh bien les deux brins peuvent se réhybrider et reformer la double hélice et redémarrer. Donc vous voyez qu'avec ce système-là, on peut avoir des informations quantitatives, on peut avoir la vitesse de l'enzyme directement, on peut avoir la processivité, c'est-à-dire la longueur que l'enzyme a parcourue, ou le temps d'action. Et les chiffres qu'on a trouvés étaient singulièrement plus élevés que ce que les biologistes avaient trouvé dans leur tube à essai. Et c'est relativement logique parce qu'ici, on voit directement les enzymes agir en temps réel. Alors je vais terminer par essayer de vous montrer une dernière petite expérience. Sur les topoisomérases. Alors, les topoisomérases, comme il est représenté ici, ce que je vous montre ici, c'est la topoisomérase 2. Elles ont donc une propriété assez extraordinaire. Là, un peu grand. Elle a la propriété, cette enzyme, donc comme je l'ai dit, est capable de changer la topologie de l'ADN. Donc elle est capable de résoudre le dilemme que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire de désenchevêtrer l'ADN. Alors, la topoisomérase 2 a ceci de particulier qu'elle est capable d'accrocher deux morceaux d'ADN double brin. Donc la partie bleue et la partie rouge ici, c'est des morceaux d'ADN double brin. Elle va donc attraper d'abord le bleu, puis le rouge. Et puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe le bleu en deux, tient les deux morceaux fermement, fait passer le rouge à travers la coupure et referme les deux morceaux bleus qui ont été coupés et relâche l'ensemble. Ce faisant, vous êtes passé d'un croisement où j'avais le rouge au-dessus du bleu à un croisement où j'ai le bleu au-dessus du rouge. Donc j'ai changé la topologie d'un croisement dans mon système. Donc vous voyez ici une action qui est peu banale. Et cette action est très importante puisque c'est elle qui va en fait désenchevêtrer tous les chromosomes lors de la réplication. Et que si vous bloquez cette enzyme, eh bien en fait vous empêchez la réplication des cellules et vous allez en fait, si vous avez des inhibiteurs des topoisomérases, vous allez en fait avoir des agents anticancéreux parce que, comme dans le cas donc qu'on a entendu hier du taxotère, eh bien on va en fait bloquer la réplication des cellules. Alors, ce principe est très joli, mais vous imaginez bien évidemment qu'il est assez difficile à mettre en œuvre dans un tube à essai. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai. Les biologistes ont trouvé des astuces magnifiques pour montrer comment marchait cette enzyme, mais ils ont un petit peu du mal à la voir marcher en temps réel. Et donc, ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est une expérience très simple où on voit cette enzyme marcher en temps réel et on la voit presque marcher à l'œil nu. Donc, c'est ce que je veux... Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, pardon. Je sais pas si c'est le bon truc. Voilà, cycle enzymatique. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est une expérience très simple, comme basée sur l'analyse avec les deux molécules dont je vous ai présenté le principe tout à l'heure. Et où, cette fois-ci, on va rajouter l'enzyme en plus. Donc, ce que j'ai ici, c'est l'image de la bille qui nous intéresse ici, vue donc d'en dessous. Et il se trouve qu'on sait que cette bille est accrochée par deux molécules par le fait qu'on voit sa hauteur varier significativement quand on fait un demi-tour de chaque côté dans notre expérience. Donc, on a testé au préalable que cette bille était bien accrochée par deux molécules. Et donc, j'ai fait ici une représentation schématique de ce qui se passe dans la cellule. Et dans l'état de départ, eh bien, les deux molécules sont décroisées, et donc je suis effectivement avec les deux montants de ma balançoire parallèles. Et ce que je vais donc tracer ici, c'est la hauteur de la bille, et donc la hauteur est maximale quelque part par ici, quand les deux molécules sont décroisées, et puis je vais faire un tour sur elle-même à la bille, donc je vais faire un croisement complet à la bille. Et si je fais ce croisement, et que j'ai maintenant en solution la topoisomérase, eh bien elle a exactement le substrat dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire deux molécules d'ADN qui se croisent, elle va voir un croisement, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire passer une molécule à travers l'autre. Si elle fait ça, en fait, elle va faire passer une solution croisée à une solution où j'ai enlevé le point de croisement. Et vous allez pouvoir voir ici son action, parce que quand les molécules ne sont pas croisées, l'extension est grande. Quand la molécule est croisée, l'extension est raccourcie donc, par l'effet géométrique. Et donc, on peut voir en direct comment se fait le système. Et si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir ici que les anneaux qui décorent la petite bille vont changer au cours du temps. Et ces anneaux permettent de mesurer la hauteur de la bille que vous avez ici. En principe, l'enregistrement est en temps réel. Voilà, donc ici au début on n'est pas croisé, je fais un tour, et donc la molécule, et toc, la topoisomérase a agi, elle a décroisé les deux molécules, on fait un tour, elle a été beaucoup plus rapide, je vais refaire un autre tour, oups, on attend un petit peu, et toc, elle décroise. Donc vous avez ici en fait en temps réel l'action d'une seule enzyme qui est devant vous. Donc ce que vous voyez ici, c'est que comme dans le cas de l'hélicase, le temps d'action est assez variable, et en fait c'est une distribution de Poisson, on s'attend à ça si on a un système donc chimique, il va y avoir une distribution assez large des temps d'action. Et donc on peut voir ici directement un seul cycle enzymatique en temps réel sur le système. Alors ce qu'on regarde actuellement, c'est comment en fait ce cycle varie avec les différents paramètres et avec les différentes enzymes. Alors j'espère, je vais m'en tenir là, j'espère donc vous avoir montré par quelques expériences très simples qu'on peut regarder donc ce qui se passe à l'échelle d'une seule molécule et donc que ces résultats permettent de mesurer directement l'action d'une enzyme et des paramètres qui étaient donc difficilement accessibles par des expériences en tube à essai. Merci beaucoup.